Merci d'écouter RFI. 8h à Washington et New York. Il est 13h en temps universel.
RFI Midi. Anne Contner.
Dernière partie de RFI Midi, J-1 aux États-Unis. Donald Trump et Kamala Harris sont tous les deux en meeting aujourd'hui en Pennsylvanie. État ultra stratégique pour les deux candidats. Nous appellerons notre envoyé spécial à Pittsburgh dans quelques minutes. Et nous verrons aussi avec notre reporter en Arizona comment les bureaux de vote se préparent et anticipent d'éventuelles violences de la part du camp Trump. Au sommaire également, la mort du musicien de légende Quincy Jones, 91 ans, dont 75 à composer et arranger pour les plus grandes stars. Et puis nous ferons le point sur l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand en Martinique, les élus sont conviés ce lundi à une conférence territoriale pour parler de nouveau de la vie chère.
Les élus et les socioprofessionnels, conférence à l'initiative du président de la collectivité territoriale, mais conférence qui laisse un peu perplexe le président de l'Association des maires de la Martinique. Nous l'entendrons tout à l'heure.
À tout à l'heure et tout de suite c'est le journal. Nous sommes donc à la veille de l'élection présidentielle aux États-Unis.
Et les sondages donnent Kamala Harris et Donald Trump coude à coude. Preuve que l'issue du vote s'annonce toujours aussi incertaine entre deux candidats aux antipodes l'un de l'autre. On l'a beaucoup dit, demain le scrutin se jouera dans sept États clés. Le plus important étant la Pennsylvanie avec ses 19 grands électeurs. En Pennsylvanie, les sondages sont très serrés et une partie de l'électorat pourrait faire la différence. Ce sont les républicains qui ne veulent pas de Donald Trump. Correspondance à Washington de Guillaume Nodin.
Toute sa vie, Anne Womble a été une républicaine convaincue. Elle a même dirigé le parti dans le comté de Lancaster. Mais pour elle, Donald Trump, ce n'est tout simplement pas possible. C'est pour cela que désormais, elle co-préside les Républicains pour Harris de la Pennsylvanie et son meilleur argument, c'est Donald Trump lui-même.
The craziness is on display.
La folie est au grand jour, minute par minute, heure par heure, et c'est de pire en pire. Donc nous essayons seulement de faire comprendre aux républicains déçus et aux indépendants qui tendent vers la droite qu'ils peuvent voter pour une démocrate cette année à la présidentielle. Ce sera très serré ici en Pennsylvanie, nous sommes l'état clé des états clés, et je suis convaincue que nos efforts vont faire la différence.
Mais pour Anne Womble, il ne s'agit pas de donner un chèque en blanc à Kamala Harris. Ses amis républicains pourraient bien voter pour elle, mais pas forcément pour les candidats démocrates au Congrès.
Kamala Harris n'aura pas la possibilité d'appliquer un programme gauchiste. Elle va devoir être centriste. Elle va devoir travailler de manière bipartisane. Et en plus, il y a maintenant une majorité très conservatrice à la Cour suprême. Donc il y a beaucoup de garde-fous.
Et d'ailleurs, en Pennsylvanie, le siège du sénateur démocrate sortant Bob Casey ne tient qu'à un fil. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
La Pennsylvanie donc fait partie des 7 swing states, ces États susceptibles de tomber dans un camp ou dans l'autre. Il y a aussi la Géorgie, l'Arizona, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord et le Wisconsin. Donald Trump rêve de retrouver la Maison-Blanche et Kamala Harris caresse le projet de devenir la première femme élue à la tête des États-Unis. Leur face-à-face se déroule alors que le Proche-Orient s'enfonce dans la guerre depuis plus d'un an. La victoire de l'un ou de l'autre changera-t-elle la donne dans la région ? Rien n'est moins sûr, Nicolas Falaise.
Les Palestiniens peuvent redouter un retour au pouvoir de Donald Trump. Sous sa présidence, les États-Unis ont décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, en contradiction totale avec le droit international. Pour autant, le sentiment qui domine dans les territoires palestiniens, c'est qu'il n'y a guère plus à attendre des démocrates que des républicains à la Maison-Blanche. En 13 mois de conflit meurtrier, l'administration Biden-Harris n'a pas fléchi dans son soutien à Israël, débloquant des dizaines de milliards de dollars, essentiellement en armes et munitions pour l'armée de l'État hébreu, et ce malgré le désastre humain dans la bande de Gaza et désormais au Liban. Joe Biden a certes montré qu'il désapprouvait la conduite de la guerre par le gouvernement israélien, mais sans jamais exercer de pression autre que verbale. Et rien ne dit que Kamala Harris changerait d'approche en cas de victoire. Le premier ministre israélien Netanyahou et ses alliés d'extrême droite ne cachent cependant pas leur préférence pour Donald Trump, dont ils peuvent espérer le soutien pour éloigner tout progrès vers un État palestinien.
Israël a maintenant officiellement informé l'ONU de l'interdiction de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Cette agence, considérée comme la colonne vertébrale de l'aide à ces réfugiés, a réagi. Elle redoute l'effondrement du système d'aide dans la bande de Gaza, ravagée par plus d'un an de guerre. En Espagne, les opérations de recherche ont repris ce matin, 6 jours après la catastrophe. Ces inondations meurtrières qui ont fait au moins 217 morts. Les autorités comme les secouristes craignent la découverte de nouvelles victimes, notamment dans le parking d'un centre commercial de la banlieue de Valence. 6 jours après cet épisode de goutte froide, d'une violence encore jamais vue, la priorité est toujours de localiser des disparus et d'identifier des corps. En Occident et surtout en Europe, les alliés de la Moldavie saluent la réélection de la présidente sortante. La pro-européenne Maia Sandu a obtenu 55% des voix hier au second tour de la présidentielle. Félicitations aussi du président ukrainien Volodymyr Zelensky. De son côté, Berlin qualifie de totalement inacceptable une tentative massive d'influence et d'intimidation des électeurs moldaves de l'étranger. Enfin, sur place en Moldavie, les socialistes pro-russes battus hier contestent la légitimité de la présidente, ils évoquent des irrégularités. Les commissaires européens passent leur grand oral. C'est aujourd'hui le début des auditions des 26 membres de la nouvelle commission, toujours présidée par Ursula von der Leyen. Ces auditions devant des eurodéputés s'étaleront pendant 8 jours. Suivra le vote final de ces députés le 27 novembre. Ce sera lors d'une séance plénière au Parlement de Strasbourg. Les explications de Romain Lemaresquier.
Les grands oraux des futurs commissaires européens débutent ce lundi. C'est l'occasion pour les députés européens d'affirmer leur autorité face à une commission européenne souvent présentée comme intouchable. Ce lundi donc, 4 prétendants vont se succéder pendant 3 heures chacun devant des commissions spécialisées du Parlement européen. Après un propos liminaire, ils devront répondre aux questions des élus. Une étape cruciale mais qui peut s'avérer dangereuse. Depuis 2004, 7 prétendants ont ainsi vu leur candidature récusée. Ces auditions vont s'enchaîner jusqu'au 12 novembre, journée considérée comme la plus importante de ce processus, puisque les 6 vice-présidents de la future commission seront entendus, dont le français Stéphane Séjourné. Enfin, le 27 novembre, un vote final est prévu lors d'une séance plénière au Parlement européen de Strasbourg pour valider le nouveau collège de commissaires. Si tel est le cas, ils prendraient alors leur fonction début décembre. Mais d'ici là, des surprises sont possibles, car parmi les prétendants, des noms ne font pas l'unanimité, notamment le Hongrois Oliver Varelli, pressenti à la santé, ou encore l'Espagnol Teresa Ribera, proposé pour être la première vice-présidente exécutive de la Commission européenne et dont l'étiquette socialiste ne plaît pas aux conservateurs du PPE, le Parti populaire européen.
C'était Romain Lemaresquier. En France, l'actualité politique de ce début de semaine est dominée par un séminaire gouvernemental. Le chef du gouvernement, Michel Barnier, a réuni ce matin ses ministres à l'hôtel Matignon. Selon son entourage, Michel Barnier réfléchit à des propositions concrètes sur les priorités des Français, propositions qui seront présentées dans un plan d'action. Les grands prix littéraires français ont cette année une forte connotation africaine. Le prix Goncourt a été décerné au franco-algérien Kamel Daoud pour son roman Houri, paru chez Gallimard, un livre sur la décennie noire en Algérie. Il ne peut être édité en Algérie car tombant sous le coup de la loi qui interdit tout ouvrage évoquant la guerre civile de 1992-2002. Quant au prix Renaudot 2024, il revient à Gaël Faye pour son deuxième roman Jacaranda, édité par Grasset, un livre sur la reconstruction du Rwanda après le génocide de 1994.
Enfin, on a appris tout à l'heure la mort de Quincy Jones, légende de la musique américaine.
Oui, Quincy Jones avait été entre autres le producteur de Frank Sinatra et de Michael Jackson lors d'une carrière longue de plus de 7 décennies. Quincy Jones disparaît à l'âge de 91 ans. Très bien continuer. C'était donc Coming Home Baby de signé Quincy Jones. Anne Contner, c'est là à vous pour la suite d'RFI Midi.
Merci Gilles Moreau. Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain. On va reparler de Quincy Jones tout à l'heure, mais d'abord de la campagne électorale aux États-Unis.
USA 2024, la présidentielle américaine sur RFI.
J-1 avant la présidentielle. Demain, les Américains choisiront entre Donald Trump et Kamala Harris et les sondages les donnent toujours au coude à coude. Il y a bien eu une enquête ce week-end qui donne la candidate démocrate en tête dans le très républicain État de l'Iowa. Mais dans les fameux swing states, l'écart est tellement faible qu'il se trouve parfois dans la marge d'erreur des sondages. Parmi ces États clés, il y en a un qui compte tout particulièrement, qui sera vraiment central, c'est la Pennsylvanie avec 19 grands électeurs en jeu. Preuve de son importance, Donald Trump et Kamala Harris y tiennent aujourd'hui leur dernier meeting et l'on rejoint notre envoyé spécial. Bonjour Achim Lippold.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes à Pittsburgh où la campagne va donc se terminer tout à l'heure pour les deux camps.
Exactement. Kamala Harris et Donald Trump se retrouvent tous les deux ce soir à Pittsburgh. Vous savez, c'est industriel du Midwest pour clore leur campagne. La ville sera donc littéralement coupée en deux entre sympathisants républicains et démocrates pour des raisons de sécurité, de difficultés de circulation. Les écoles fermeront à la mi-journée et les habitants sont priés d'éviter les déplacements en voiture difficiles pour les Américains. Donald Trump tiendra son rassemblement dans un stade en centre-ville. Sa rivale a choisi un ancien site sidérurgique, un symbole fort, Anne, car Kamala Harris, vous savez, cherche toujours à séduire les ouvriers, les fameux col bleu, mais aussi les républicains modérés et les femmes qui pourraient peut-être reconsidérer leur vote après les récents propos racistes, misogynes et violents de Donald Trump. L'ancien président, quant à lui, n'est pas particulièrement populaire dans la ville de Pittsburgh, bastion démocrate, comme la plupart des centres urbains ici en Pennsylvanie. Il espère cependant rallier les habitants de la ceinture de rouille, ces banlieues autour de Pittsburgh, où le vote pourrait basculer par rapport à 2020, l'année où Joe Biden a remporté cet État de justesse.
Oui, en 2020, les résultats en Pennsylvanie avaient permis la victoire de Joe Biden, mais ils avaient été communiqués seulement le samedi, 4 jours après l'élection. Est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce plus rapide cette année ?
Alors ça, très difficile à dire, à prédire, Anne. Les autorités affirment que les résultats devraient arriver plus vite qu'il y a 4 ans, car le dépouillement des votes par correspondance débutera dès l'ouverture des bureaux de vote, donc dès 7 heures. Les équipes ont été renforcées. Une partie du dépouillement a été automatisée ici en Pennsylvanie. L'objectif est donc d'accélérer la procédure, car plus le dépouillement traîne, et bien plus la méfiance s'installe. Une méfiance déjà bien présente, notamment chez les républicains. Écoutez Nancy, que j'ai rencontrée hier près de Pittsburgh.
Je suis très inquiète pour l'élection. J'ai le sentiment que Donald Trump devrait gagner largement. Mais il y a tellement de fraudes dans les villes démocrates. Alors si Kamala Harris l'emporte, pour moi ce sera dû à ces fraudes.
Oui, ce discours, Anne, je l'ai entendu très, très souvent chez les républicains que j'ai pu rencontrer ces derniers jours, des électeurs qui, comme Donald Trump, n'ont jamais accepté la victoire de Joe Biden.
Harim Leipold en direct de Pittsburgh. On vous retrouvera bien sûr tout à l'heure sur notre antenne pour suivre ces derniers moments de campagne dans un climat qui est donc très tendu. Donald Trump l'entretient chaque jour dans sa campagne. On a l'impression qu'il va même un peu plus loin à mesure qu'on s'approche du scrutin. Voilà par exemple ce qu'il a dit hier, déjà en Pennsylvanie.
I shouldn't have left. I mean, honestly, because we did so well.
Je n'aurais pas dû partir, comprendre, quitter la Maison Blanche. Je n'aurais pas dû partir, honnêtement, parce qu'on a vraiment fait du bon travail. À ce moment-là, il parlait de la frontière avec le Mexique. Donald Trump, toujours un peu plus menaçant, et à mesure qu'il multiplie ses prises de parole, l'inquiétude grandit. D'ailleurs, le vote demain sera entouré de mesures de sécurité inédites. Abla Junaidi, vous êtes en direct de Mesa, dans la banlieue de Phoenix, en Arizona. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
L'Arizona, c'est l'un des États où le négationnisme électoral, le refus des pro-Trump de reconnaître la défaite de 2020 est allé le plus loin. Alors, les autorités locales, évidemment, font tout ce qu'elles peuvent pour rassurer la population à l'approche des élections.
Oui, elles partent du constat que les menaces potentielles sont toujours d'actualité. Le comté de Maricopa concentre le plus grand nombre d'électeurs dans l'État. Le bâtiment qui abrite les opérations de dépouillement est désormais cerné de barrières, hérissé de caméras, en attendant les snipers sur les toits, en cas de nécessité, précisent les autorités. L'objectif, empêcher que des groupes d'extrême droite ne viennent tenter d'occuper les lieux, comme en 2020, Trump avait cherché à perturber le comptage des voix. Plus que le jour de l'élection, ce sont les suivants qui inquiètent Anne.
Des faits de violence épisodiques ont déjà été rapportés quand même à Blain.
Des tirs contre une permanence du Parti démocrate, sans victime, une boîte pour bulletin de vote brûlée, mais sans motif politique apparent. Et puis quelques agressions verbales comme celle dont a été victime Marie, une employée locale dans le comté de Maricopa.
Un homme s'est dirigé vers les escaliers du centre de vote. Il a levé le poing en l'air plusieurs fois en hurlant « Trump 2024 ». Il s'est ensuite mis à nous hurler dessus en nous insultant. Oui, beaucoup d'insultes contre moi, des putains et autres. Il nous a dit qu'on serait désolé le jour où Trump serait élu parce qu'on serait capturé avec les migrants illégaux, qu'on était des communistes, des fascistes. fasciste. Ensuite, j'allais pour rapprocher mon camion pour ramasser nos affaires quand, au lieu de partir, il est revenu vers moi en voiture pour me hurler à nouveau dessus. On ne faisait rien d'autre que de donner aux électeurs les informations dont ils avaient besoin pour voter. Le bulletin est énorme cette année en Arizona, 4 pages entières. C'est le plus important que j'ai jamais vu dans notre pays.
Voilà, pas de casse, habla, mais une ambiance de peur s'est installée.
Oui, et les autorités de l'État surveillent les réseaux sociaux, notamment à l'affût de la moindre étincelle. Elles parlent néanmoins de l'élection la plus sécurisée jamais organisée dans l'Arizona et saluent le fait que dans le comté de Maricopa, plus d'un million de bulletins ont été glissés par anticipation, preuve selon les fonctionnaires du comté que les électeurs sont mobilisés.
Abla Junaidi en direct de Mesa en Arizona. C'est possible, violence, la presse en parle aussi aux États-Unis. Et vous l'avez lu pour nous, Christophe Paget.
Oui, les menaces contre le personnel électoral se sont faites plus violentes, écrit USA Today. Et les responsables des élections à travers le pays ont passé des mois à se coordonner avec les agences de gestion des situations d'urgence à un niveau sans précédent pour protéger les électeurs, les bulletins et le personnel électoral, explique Le Quotidien, qui souligne que des républicains pro-Trump connus disent déjà que des militants se rendront aux endroits où les votes sont comptés si on ne sait pas clairement le jour de l'élection qui a gagné la présidentielle. Dans tout le pays, des responsables locaux des scrutins ont donc changé les procédures ou construit de nouvelles installations, anticipant la venue de ces gens qui pourraient potentiellement entraver le décompte des voix. Dans le comté de Washoe, Nevada, des caméras surveillent le personnel qui compte les bulletins. Ils disposent de panic buttons en cas d'urgence et sont isolés par des vitres insonorisées car il est arrivé par le passé que des observateurs les harcèlent. Le Washington Post parle même sur d'autres sites de snipers disposés sur des toits et de drones de surveillance. La plupart de ces préparatifs, note Le Quotidien, sont centrés sur la période post-électorale dans des États où le décompte continuera, particulièrement en Arizona et en Pennsylvanie.
La Pennsylvanie, choisie par les deux candidats pour leur dernier meeting, on le disait, fin de campagne, elle n'aura duré qu'une centaine de jours pour Kamala Harris. Une centaine de jours pour convaincre d'abord son propre camp qu'elle n'était pas qu'une remplaçante choisie à la va-vite et qu'elle pouvait rassembler largement autour d'elle. Quel bilan ? Écoutez le journaliste indépendant Alexis Buisson, auteur d'une biographie de Kamala Harris parue chez l'Archipel. Il a suivi la candidate ces derniers mois sur le terrain.
Elle a beau avoir une longue carrière politique, les électeurs américains dans leur ensemble ne la connaissent pas, ne la connaissaient pas bien. Contrairement à peut-être l'image qu'on peut s'en faire à l'étranger, les Américains ne suivent pas trop la politique et s'en détournent de plus en plus. Kamala Harris s'est heurtée à ce problème-là de devoir se présenter ou se représenter. Donc je pense qu'elle a fait le maximum en très peu de temps. Elle a levé des sommes pharaoniques d'argent qu'elle a utilisées pour ouvrir des bureaux de campagne, pour mobiliser des volontaires, etc. Donc il y a clairement eu un enthousiasme énorme autour de sa candidature. Mais est-ce que ça sera suffisant pour battre Donald Trump, qui est quand même lui aussi à sa manière un personnage sous-estimé de la vie politique américaine ? Eh bien, on verra effectivement dans quelques jours.
D'autant plus que pour Donald Trump, la campagne n'aura jamais vraiment cessé depuis la présidentielle de 2020. C'est la troisième fois qu'il est candidat. Ça aurait pu être l'occasion de faire les choses différemment. Mais pas du tout, comme l'explique Sofiane Al-Sabar, spécialiste de la politique intérieure des États-Unis.
Il n'a pas cherché à changer sa candidature. C'est vraiment ce qu'il a fait dans le style, dans la rhétorique en 2016 et en 2020. Et il propose encore une fois, pour la troisième fois, la même personnalité avec le même projet, qui est très très léger selon moi, aux Américains. Donc ça déjà, c'est à noter, c'est assez extraordinaire. Et puis le deuxième point, si on fait le bilan de sa campagne, c'est quand vous arrivez proche de la ligne d'arrivée, la règle du jeu, c'est plutôt de recentrer son discours pour essayer de convaincre les électeurs qui sont indépendants, qui sont indécis, par un message d'unité, je dirais un message très raisonné. Et là, encore une fois, avec M. Trump, c'est assez extraordinaire, vous avez vu absolument l'inverse. Il faut dire que, plus que jamais, il fait campagne pour une base qui est archi-minoritaire, toujours la même, et on ne voit pas d'espèce d'expansion de sa base électorale. Mais c'est un pari qui est très risqué, et je pense que M. Trump pourrait perdre beaucoup, notamment avec deux segments très précis. Le premier segment, c'est celui des électeurs les plus âgés, et le deuxième segment, c'est celui des femmes, qui sont plutôt aisées. C'est d'habitude deux bastions très fortement républicains, mais tout indique que cette année, la campagne Trump va perdre des plumes avec ces deux segments de l'électorat.
Sofiane Al-Sabar, spécialiste de la politique intérieure des États-Unis et auteur du livre « La nouvelle droite américaine », analyse recueillie par Michael Ponge.
RFI, la radio del mundo.
Les blocages routiers se poursuivent en Bolivie et font la une de la presse. Christophe Paget, des blocages organisés par les partisans d'Evo Morales qui craignent que l'ancien président ne soit arrêté.
Correo del Sur parle d'une escalade du conflit alors que les blocages de routes continuent, particulièrement dans les régions de Cochabamba et Santa Cruz, où les manifestations génèrent des pertes qui se comptent en millions de dollars. 91 policiers ont été blessés, nombre de bloqueurs ont été arrêtés. Et c'est dans ce contexte qu'Evo Morales a entamé une grève de la faim avant-hier.
Je me sens bien au deuxième jour de ma grève de la faim. Ma grève la plus longue a duré 20 jours. C'était pendant le gouvernement de Banzer, quand j'étais député. Là aussi, c'était pour ouvrir le dialogue. J'en suis sorti détruit. Mais aujourd'hui, ça va. Je commence à peine et je n'ai aucun problème. Avant-hier, j'ai publiquement appelé à une grève de la faim pour éviter un bain de sang. J'ai demandé à mes camarades un dialogue immédiat. Et la réponse du gouvernement, ça a été d'arrêter 66 camarades et de les emmener à la passe. Ce ne sont que des mensonges. De quoi allons-nous parler ?
Alors on l'entend, Christophe, l'ancien président accuse le gouvernement d'ignorer sa demande de dialogue.
De toute façon, selon la Razón, après 22 jours de blocage de route, les deux parties n'expriment qu'une intention de dialogue. Le quotidien rappelle que samedi, la ministre de la présidence, Maria Nela Pradhan, a dit que le gouvernement était prêt au dialogue, mais relève le quotidien seulement à la demande du défenseur du peuple. La Razón, qui rappelle que de son côté, l'Estado Mayor del Pueblo, qui regroupe les organisations à l'origine des mobilisations, a conditionné sa participation à la cessation de la persécution politique contre Morales. Et c'était il y a près de 3 semaines, 2 jours après le début des blocages.
Et la situation s'est encore plus tendue ce week-end. Au moins 200 militaires boliviens sont retenus en otage par des partisans d'Evo Morales.
Qui ont pris 3 casernes d'assaut dans le département de Cochabamba. Le ministère de la Défense, écrit Los Tiempos, a condamné la prise armée et violente d'unités militaires, parlant de délits graves contre la démocratie, la sécurité et la stabilité de l'État. La grève de la faim d'Evo Morales elle-même a pour objectif de déstabiliser le gouvernement, affirme le ministre des Relations extérieures de la Bolivie.
À Cuba, la presse alerte sur le risque d'inondation. Près de 70 000 personnes ont été évacuées.
Tout le pays retient son souffle devant la possible formation d'un ouragan titre Granma, car il y a 80% de risque que se forme une dépression tropicale qui se transformerait ensuite en ouragan en avançant vers le nord des Caraïbes, écrit Juventud Rebelde, et elle pourrait affecter Cuba. La défense civile a donc donné l'ordre d'évacuer 4 municipalités de Guantanamo, rapporte 14 Medio, qui précise « Les sols saturés par les pluies et les réservoirs et rivières au maximum de leur capacité augmentent le risque d'inondation à Maïsi, Imias, San Antonio del Sur et Baralcoa, où l'effet de 2 autres phénomènes météorologiques se formant dans la mer des Caraïbes a déjà commencé à se faire sentir. »
RFI. The World's Voices.
Et puis Christophe, les journaux aux États-Unis et dans le monde entier d'ailleurs reviennent sur le parcours de l'immense musicien et producteur américain Quincy Jones, décédé à l'âge de 91 ans.
Et la presse n'a pas assez de qualificatifs dans ses titres pour parler de Quincy Jones, l'icône de la musique et le gagnant de 28 Grammy Awards pour Deadline, le géant de la musique américaine pour le New York Times. Le producteur inégalable derrière Thriller, rappelle Rolling Stone. Rolling Stone qui rappelle aussi que le musicien est derrière de remarquables albums de jazz, de soul, de funk, mais aussi derrière les plus grands disques de pop du siècle, la trilogie jacksonienne, Off the Wall, Thriller et Bad, entre autres.
Alors pour vous donner une idée de la touche Quincy Jones, je vous propose d'écouter un des plus grands tubes de Michael Jackson. Voici la démo de Don't Stop Till You Get Enough, donc telle que l'avait enregistré le chanteur avec la famille Jackson. Alors vous allez me dire que c'est déjà pas mal, et c'est vrai. Mais après les arrangements de Quincy Jones, ça donne ça. C'est lui qui a l'idée d'ajouter des violons, et Don't Stop Till You Get Enough devient un morceau de génie.
C'est vrai. Mais Rolling Stone rappelle que lorsqu'il a travaillé avec Michael Jackson, Quincy Jones avait déjà taillé sa route à travers le jazz et la pop bubblegum du début des années 60, ainsi que de nombreuses, très nombreuses BO de films. Étudié également avec la célèbre compositrice classique Nadia Boulanger, fait l'arrangement de disques de Ray Charles et conduit l'orchestre de Frank Sinatra. Peu de musiciens dans l'histoire ont eu une carrière aussi variée et rencontré le succès dans des styles aussi variés également. Variety rappelle qu'il fut aussi le producteur de We Are The World, le disque consacré à la famine en Afrique. Il a aussi été le premier afro-américain à écrire la BO d'un film majeur, c'était en 1964, The Pawnbroker. Tous ces morceaux sont évidemment cités par le New York Times dans ses 14 chansons essentielles, produites, arrangées ou enregistrées par Quincy Jones. Cela va du jazz Evening in Paris, enregistré en 1957 avec des pointures comme Charlie Mingus, à I'll Be Good to You avec Ray Charles et Chaka Khan en 1989 sur un album Back on the Block qui lui vaudra 6 Grammy Awards. En passant évidemment par Soul Bossa Nova, sa version de la musique brésilienne qualifiée par le New York Times d'audacieuse et ludique. En 2017, dans une interview accordée à Rolling Stone, Quincy Jones présentait cette agitation créative comme l'engagement d'une vie à apprendre autant de musique qu'il le pouvait. Vous devez espérer avoir la possibilité de faire toutes les erreurs possibles pour apprendre. Et j'ai fait toutes les erreurs, toutes.
Merci Christophe Paget. Allez, on va écouter encore un petit peu Quincy Jones.
Journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, Benoît Ferrand va parler de la Martinique d'abord, où élus et socioprofessionnels sont conviés ce lundi matin à une conférence territoriale consacrée à la vie chère.
Conférence à l'initiative du président de la collectivité territoriale, Serge Letchimy, une sorte de point d'étape qui, alors que les manifestations dans la rue se poursuivent, qui laisse un tantinet perplexe. Le président de l'Association des maires de la Martinique, il s'appelle Justin Panfil.
Je suis un peu dubitatif parce que l'expérience me montre aujourd'hui que quand on a signé le projet d'objectif pour sortir de la crise, on a vu qu'on a travaillé comme des forcenés et à la fin, il n'y a eu aucune signature du RPRAC. On va encore se réunir pour faire un certain nombre de propositions, travailler sur des solutions entre guillemets que nous souhaitons durables, mais avec des personnes qui ne croient pas au travail qui est fait par peut-être les élus, par d'autres, des socioprofessionnels, des représentants de la population. Donc moi aujourd'hui, j'ai envie simplement de dire, l'association des maires sera certainement représentée, mais ça ne sera pas par moi, parce que malheureusement j'avais déjà d'autres obligations, mais je reste dubitatif sur le fait que nous continuons malgré tout à avancer avec des personnes qui ne croient pas dans le travail que nous faisons. Donc il faut respecter le travail de ceux qui étaient avant nous, et à partir de ce travail-là, on peut continuer à avancer.
Après le président de l'Association des maires de la Martinique, voici le président de l'Association des maires de la Guadeloupe. Et lui n'est pas convaincu, mais alors pas convaincu du tout par la suppression de l'octroi de mer pour faire baisser les prix de certains produits. Ce n'est pas la bonne solution, clame Jocelyn Sapotille au micro de Chantal Horn.
Enlever l'octroi de mer, c'est tromper la population. C'est faire croire à la population qu'on a fait quelque chose. On l'a fait en 2009. Regardez le résultat 15 ans après. Ça n'a rien donné. Je vous donne un exemple. Le lait. Le lait est moins taxé en Guadeloupe qu'à Paris. Pourtant, il est plus cher qu'à Paris. Donc, ce n'est pas la taxe le problème. Les pâtes alimentaires. Je peux vous donner une série d'exemples comme ça sur tout ce qui est alimentaire. L'alimentaire n'est pas plus taxé en Guadeloupe que l'alimentaire est taxé à Paris. Et pourtant, l'alimentaire est plus cher. Mais on trompe tout le monde en faisant croire que c'est à cause des taxes. Ce n'est pas vrai. C'est à cause, bien sûr, des marges qui sont exorbitantes, à cause d'une absence de concurrence, à cause, bien sûr, du transport, des coûts de transport, à cause des marges arrière qui ne sont pas réattribuées aux consommateurs. Moi, je dis aux consommateurs guadeloupéens, reprenez votre pouvoir, s'il vous plaît. Vous avez un pouvoir d'acheter ou de ne pas acheter. Quand les distributeurs ne jouent pas le jeu, n'achetez pas. Et vous allez voir si les prix ne vont pas descendre. Je suis sûr que si les consommateurs guadeloupéens décident de faire jouer leur vrai pouvoir de consommateur, c'est-à-dire de se dire « je suis libéré, je n'irai pas acheter là ». Eh bien, s'ils font ça même pendant un mois, deux mois, vous allez voir si les prix ne vont pas descendre.
Jocelyn Sapotille, président de l'Association des maires de la Guadeloupe. Bon après-midi, Anne, et à jeudi.
À jeudi, alors Benoît Ferrand. Parce qu'on parlera évidemment, on consacrera une grande part à l'actualité des États-Unis pendant les deux prochains jours. Demain, jour de vote pour la présidentielle, pour renouveler un tiers du Sénat, pour choisir aussi les représentants à la Chambre. Et puis mercredi, lendemain de vote, avec une édition spéciale. Édition spéciale aussi la nuit prochaine pour suivre les résultats, la nuit américaine sur RFI.
Ce lundi, sur RFI.
Comment la science infuse et se diffuse.
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Bienvenue autour de notre table ronde mensuelle avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique venus avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Science et Avenir, Epsilon, Science et Vie, Ciel et Espace pour la science. À vous de jouer et d'écouter pour les remporter.
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.